Chapitre 4. Arrivé à Trouville. Dans la cour de la gare, le break attendait, attelé de deux beaux chevaux noirs. En passant, Madame de Valry caressa Eben, son favori. Le bel animal remercia par un léger hennissement et chercha dans la main qui l'avait flatté le morceau de sucre qu'elle lui donnait souvent. « Gourmand, dit sa maîtresse en le quittant, pour rejoindre son mari qui sortait de la salle des bagages. « Monsieur de Valry, savez-vous que j'ai de grandes inquiétudes pour nos caisses ? Je viens d'avoir défilé toute une cargaison, et pas une seule à nous. » « Madame de Valry, peut-être sont-elles dans un wagon que vous n'avez pas vu décharger ?» « Monsieur de Valry, en tout cas, cher ami, ne restez pas à cuire dans cette cour. Le mieux serait de gagner la maison avec toute la bande, excepté les deux grands garçons que je garde avec moi. Bon, voilà déjà Léon qui se carre dans la voiture. Léon, Léon !» Léon s'approchant. « N'allons-nous pas bientôt partir, papa ? Les chevaux s'impatientent, ils sont dévorés par les mouches. » « Monsieur de Valry, ta mère est prête. Va prévenir tes sœurs et Miss Lagy, puis tu viendras me retrouver avec Maurice dans la salle des bagages. » « Léon, nous ne partons donc pas tous ensemble ?» « Monsieur de Valry, non, nous restons tous les trois pour reconnaître les colis. » « Léon, alors la voiture viendra nous reprendre après avoir conduit maman ?» « Monsieur de Valry, inutile, le trajet à pied nous fera une promenade. » « Léon, par cette chaleur écrasante ?» « Monsieur de Valry, tu en verras bien d'autres lorsque tu seras soldat. » Léon part évidemment de mauvaise humeur. Monsieur et Madame de Valry se regardent en souriant. Tous ceux qui devaient prendre place dans le break les avaient rejoints. On y monta, il s'éloigna rapidement. En passant sur le pont qui sépare Deauville de Trouville, un monsieur salua. Madame de Valry. Est-ce nous qu'on a salué, Blanche ? Blanche. Oui, maman, je crois que c'est Monsieur Percier. Madame de Valry. C'est étonnant. Sa sœur m'avait dit cet hiver qu'il devait voyager et ne serait sans doute pas au mois d'août à Trouville. Hélène. Je voudrais bien que ses neveux et nièces fussent chez lui. Quelle bonne partie nous ferions ensemble. La voiture, continuant à rouler, passa devant l'église Notre-Dame des Victoires, si bien située sur la hauteur. Puis on longea le port, encore quelques instants, avant d'entrer dans la rue des Bains. Les enfants poussaient des cris de joie à chaque boutique qu'ils reconnaissaient, et Marcel, en passant devant la rue de Paris, envoya un baiser à la mère. Il ne restait plus alors que quelques tours de roue à faire pour franchir une jolie grille et s'arrêter devant une véranda tout enlacée de roses grimpantes. Cette décoration justifie le nom de Villa des Roses que porte la maison habitée pour la troisième fois par la famille de Valry. Sur le seuil se tenait Madame Aubert, la propriétaire, qui dit après plusieurs révérences « Vous avez dû avoir bien chaud dans votre voyage, madame. » J'ai fait préparer quelques rafraîchissements dans la salle à manger. « Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, mon petit monsieur Marcel. Vous n'êtes pas trop fatigué ?» Madame de Valry. « Pas trop, madame Aubert. Je ne vous demande pas de nouvelles de votre santé, car elle me paraît florissante. » Madame Aubert, en effet, avait une bonne grosse figure de pleine lune sous son bonnet orné de rubans violets. Elle avait fait des frais pour recevoir ses locataires. Ses cheveux, sortie des papillotes, formait de grosses boucles blondes et au milieu de sa cravate de mousseline blanche brillait le portrait de son défunt mari. C'était de son vivant un capitaine au long cours qu'elle avait perdu 4 ans auparavant. Madame Aubert. Comme ces demoiselles ont grandi, tout le monde, j'en réponds, doit les trouver bien belles. Madame de Valry riant. Chut donc, Madame Aubert, est-ce qu'on dit de ces choses-là? Il pourrait se trouver des filles assez folles pour le croire. Heureusement, ce ne sont pas les miennes. Marcel. Madame Aubert, je ne vois pas Loulou. Où est donc Loulou ? Madame Aubert. Le cher petit ange qui se souvient de Loulou. Si mon pauvre capitaine l'entendait, lui qui aimait tant son chien. Vous le verrez plus tard. Je l'ai enfermé parce qu'il aurait pu vous ennuyer par ses gambades. Marcel. Allons le voir tout de suite. N'est-ce pas, maman, qu'il est poli que j'aille faire une visite à Loulou ? Madame de Valry, si Madame Aubert veut bien t'emmener avec elle, j'y consens, mais il ne reste pas longtemps. Lily, moi aussi, tante. Madame de Valry, mais mon amour, tu es déjà fatiguée du voyage. Lily sautant, dansant. Pas du tout, tante, voyez. Madame Aubert promit de ramener les enfants très promptement. Après leur départ, Madame de Valery monta dans sa chambre, en attendant le retour de son mari. Pendant ce temps-là, Blanche et Hélène retrouvaient avec bonheur l'installation des années précédentes et montraient à Miss Lagy la chambre qui lui était destinée. Miss Lagy s'approchant de la fenêtre. « Oh, quel bonheur, je vois la mer. Il me semble que je suis moins loin de mon pays. » Blanche. « Maman a bien pensé que cela vous ferait plaisir. Tiens, voilà papa. Viens-tu, Hélène, voir si les bagages sont arrivés ?» Maurice, du bas de l'escalier. « Eh bien, mes pauvres sœurs, vous vous passerez de bonnet de nuit ce soir. » Blanche et Hélène. « Comment cela? Vraiment? Pas de caisse ?» Monsieur de Valery. « Elle roule du côté de Cherbourg. J'ai fait télégraphier, mais aucun espoir de les avoir avant demain matin. » Les fillettes, désolées, appelèrent leur mère pour lui annoncer la fatale nouvelle. Madame de Valery, consternée. « Vous a-t-on expliqué pareille bévue? Comment se fait-il que des bagages enregistrés pour Trouville aient pris une autre direction ?» Monsieur de Valery. « Quant à l'explication, la voici. À Lisieux, on les a laissés dans le train que nous avons quitté, et comme il allait à Cherbourg, nos bagages y arriveront avec lui. Il va vous manquer une foule de choses, mais ce qui me fait singulièrement défaut dans ce moment-ci, c'est un morceau de savon. Quelqu'un de vous en a-t-il? J'ai des mains de ramoneur. » Hélène. Miss Lagy en a, bien sûr, dans son sac de voyage. Je vais aller le lui demander. Madame de Valery. Les garçons ne sont donc pas rentrés avec vous? Monsieur de Valery, regardant autour de lui. Tiens, ils ne sont plus là. Si, certainement. Nous sommes revenus ensemble, Léon tirant la jambe et traînant le pied. En passant sur le pont, il y avait un chat mollement étendu, et il l'a regardé d'un tel air d'envie que Maurice et moi nous sommes partis d'un grand éclat de rire. Léon ouvrant la porte de la salle à manger. « Il fait très bon ici, très frais, et la table est garnie d'un goûter fort affriolant. Sans doute une attention de Madame Aubert. Est-ce que personne n'y fait honneur ?» Madame de Valery. « Tout notre guignon m'empêchait d'y songer. Venez-vous, Adrien ?» Monsieur de Valery. « Dès que je serai propre. » Hélène vint avertir que tout ce qu'il fallait pour cela était préparé dans le cabinet de toilette de son père. Chacun y passa à son tour avant de se réunir autour du linge organisé par Madame Aubert. Lorsque cette brave femme revint, amenant Marcel et Alice, on lui conta dans quel embarras on se trouvait. Elle mit toute sa garde-robe et celle de son époux défunt à la disposition de la famille de Valery. « Ni compliments ni remerciements, messieurs, mesdames, je retourne vite à la maison faire le parquet. » Une demi-heure après, sa servante, Michel, apporta un gros paquet. L'ouvrir fut un bonheur pour les enfants. « Voyez quelle grande chemise, quelles manches, les belles camisoles à fleurs, et puis des bonnets de coton. Qu'est-ce que Madame Aubert veut que nous en fassions ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Oh mon Dieu, il y en a pour nous tous, y compris Miss Lagy et les petits. » Monsieur de Valery. « C'est la coiffure du pays. Je suis sûre qu'elle me va très bien, n'est-ce pas, Miss Lagy ? » Il prit un des bonnets de coton, le mit sur sa tête. Les enfants battirent des mains, mais Miss Lagy pensait que ce n'était pas très gracieux. Elle avait vu, en venant de la gare, des hommes et des femmes ainsi coiffés et les avait trouvés un peu caricatures. Le paquet contenait bien d'autres choses encore, mais les pantoufles du capitaine absorbèrent l'attention générale. Sur le dessus, un immense bouquet de capucines s'étalait au milieu d'une verdure d'épinards. Elles étaient larges à servir de berceau à un enfant nouveau-né. Madame de Valery. « À présent, mes enfants, appelez Fanny pour qu'elle porte tout cela dans ma chambre. Nous verrons le parti à en tirer pour nos toilettes de nuit, et puis reprenez vos chapeaux et allons faire une promenade avant le dîner. » Alice. « Moi aussi, ma petite tante ? » Madame de Valery. « Non, mignonne, tu vas rester avec Marcel. Cela serait trop fatigant pour vous. Un autre jour, vous ferez cette course sur des ânes. » Cela consola vite Alice, et appelant Marcel, ils allèrent offrir leur service à Mariette pour préparer les chambres. Quand les promeneurs revinrent, ils trouvèrent la bonne sur le pas de la porte, ayant l'air de guetter l'arrivée de ses maîtres avec une figure de catastrophe. « Je suis bien aise de voir revenir madame, pour qu'elle me dise ce que je dois mettre à mademoiselle Lily, qui s'est couverte d'encre de la tête aux pieds. Je n'ai rien pour la changer, j'ai voulu la coucher, mais elle a tant pleuré que je l'ai laissée en pantalon en attendant le retour de madame. » Madame de Valery monta vite dans la chambre où était sa petite nièce, mais s'arrêta à la porte pour écouter la conversation des enfants. « Vois-tu, mon Lily, disait Marcel, c'est très vilain d'avoir été fouillé dans le sac de voyage de maman. Pourquoi donc as-tu fait cela ? » Alice, « Je voulais encore des bonnes pastilles roses qu'elle m'a données pendant le voyage. Je croyais qu'elles étaient dans la petite boîte que j'ai trouvée. En pressant sur le bouton, elle s'est ouverte, et c'était de l'encre, de la vilaine encre noire. » Marcel, tu étais trop gourmande et un peu voleuse. C'est pour cela que tu as trouvé de l'encre et pas des bonbons. Mais ne pleure plus. Je demanderai pardon à maman pour toi. Tiens, prends ma blouse. C'est pas convenable qu'une fille soit en pantalon tandis que moi un homme. » Et le petit bonhomme commençait à se déshabiller lorsque sa mère entra. Les enfants allèrent tous les deux se jeter dans ses bras et la couvrir de tant de baisers que le bébé ne fut pas grondé. On s'occupa vivement de lui composer un costume avec les tabliers que la bonne avait emportés pour garantir de la poussière en chemin de fer, et les larmes étaient séchées lorsqu'on se mit à table. Le lendemain, dès le réveil, on entendit un grand bruit dans la rue. C'était un camion apportant les bagages. Ce fut un immense plaisir. On allait donc avoir d'autres vêtements pour aller à la plage et surtout les costumes de bain. La marée était de bonne heure. Il fut décidé que le premier bain serait pris ce jour-là même, avant le déjeuner. Monsieur de Valry sortit dès 9 heures pour aller régler les abonnements au casino. Quand il revint, il raconta avoir vu plusieurs personnes de connaissance, entre autres Monsieur Percier. Il était à sa propriété de Boisfleury, où allait venir une de ses sœurs avec ses enfants. Cette rencontre venait confirmer les espérances de la veille. Les jeunes de Valry formèrent donc le projet de se réunir souvent aux neveux et aux nièces de Monsieur Percier. « C'est un homme bien aimable, dit Hélène à Miss Lagy. Il ne s'est jamais marié. C'est comme Monsieur de Livry. Seulement, lui ne vit pas seul, il demeure avec sa sœur, Mademoiselle Élisabeth, et puis il a deux autres sœurs mariées celle-là. Il y en a une que nous ne connaissons pas, nous avons seulement vu sa fille, Madeleine, l'année dernière. Mais l'autre, Madame de Maumère, plaît beaucoup à maman, et ses enfants sont charmants. C'est bien commode pour jouer, parce que les aînés sont des garçons, comme ici. De sorte que Pierre et Jean vont avec Maurice et Léon, tandis que Marthe vient avec Blanche et moi. Il y a encore Cécile et Henri, ceux-là sont pour Marcel et Lily. Quelle troupe, n'est-ce pas, Miss, lorsque nous serons tous ensemble ? Miss Lagy. Oh oui, certainement, mais vous parlez toujours trop français. Il aurait fallu essayer de me dire tout cela en anglais. Hélène. Eh bien, vous serez satisfaite de nos amis de Maumère, parce qu'on parle beaucoup anglais dans cette famille-là. Il y avait même l'année dernière avec eux une vieille demoiselle anglaise, l'ancienne institutrice de ces dames, à ce que je crois. Miss Lagy. Oh, alors très bien, il faudra toujours causer en anglais.
Toujours, c'est beaucoup,
reprit la petite fille, mais assez bas pour n'être pas entendue. À ce moment-là, Madame de Valry rentra, disant à Hélène qu'on l'attendait pour aller sur la plage et priant Miss Lagy d'accompagner les enfants, car elle se sentait trop fatiguée pour s'y rendre. À cause de cela, les deux petits ne devaient se baigner que le lendemain, car elle tenait à assister à leur premier bain. Derrière elle, arrivèrent Maurice, Léon et Blanche, avec leur paquet de costumes sous le bras. Ils avaient mis les caisses sans dessus-dessous pour les trouver. Ce fut avec attendrissement que le baigneur des années précédentes revit tous les deux Valry, et la mère sembla s'être chauffée au soleil tout exprès pour qu'il leur parût délicieux de passer d'une vague sous l'autre. Ils ne pouvaient se décider à sortir de l'eau, malgré les signes d'appel que l'institutrice leur faisait, debout sur la grève, la montre à la main. Quand enfin ils arrivèrent vers leur cabane, elle leur dit en passant. « Vilain petit désobéissant, je ne dirai rien pour cette fois, mais il ne faudra pas recommencer. » Ils recommencèrent d'autant moins que, tout en se promenant, leur père avait, sans qu'ils s'en doutassent, surveillé leur bain et vu pendant 5 minutes Miss Lagy se démener en pure perte. Tous les quatre, garçons et filles, baissèrent donc le nez dans leur assiette lorsqu'à déjeuner M. de Valry leur adressa une réprimande à ce sujet. Il l'aurait même peut-être faite plus longue si Nicolas n'était venu lui remettre une dépêche. Elle était de Madame de Berneuil, annonçant une bonne arrivée à Toulouse et promettant un autre télégramme aussitôt qu'elle serait à Cotteret. En sortant de table, Lily voulut voir le panier qui venait de sa maman. Le pauvre bébé fut tout désappointé quand on lui donna une feuille bleue. « Ce n'est pas là le papier à maman. » En sortant de table, Lily voulut voir le papier qui venait de sa maman. Le pauvre bébé fut tout désappointé quand on lui donna une feuille bleue. « Ce n'est pas là le papier à maman. Il n'a pas son chiffre d'abord et puis ce n'est pas son écriture. Ça, c'est griffonné à l'horreur. » Léon voulut entreprendre une explication du télégraphe. La petite fille n'y comprit rien, bien entendu, quoique son cousin eût dessiné 2 appareils avec les fils conducteurs. Impatienté de s'être donné toute cette peine sans réussir, il l'appela « petite sotte », ce dont, le cœur bien gros, elle alla se plaindre à sa tante. Pour consoler l'enfant, Madame de Valry la prit sur ses genoux,
La dorlota en essuyant les larmes qui tombaient, puis lui dit « Veux-tu que je te raconte quelque chose ?»«
Oui, ma tante, un conte ou une histoire. »
« Tu sais donc qu'il y a une différence ?»«
Oui, maman m'a dit qu'une histoire c'est vrai et qu'un conte ce n'est pas vrai. »
« Eh bien, que préfères-tu ? J'aime mieux un conte. C'est plus drôle.
Alors, bébé, en voici un qui s'appelle « Les aventures de Blondine ».
Julie Popote avait 8 ans lorsqu'elle revint un jour de la pension chargée de prix. Son père, après l'avoir bien embrassée, lui donna une belle pièce d'or. Elle était enchantée et sut tout de suite comment la dépenser, car l'idée de la mettre dans une tirelire ne lui aurait pas plu du tout.
« Ma chère maman, alla-t-elle dire à Madame Popote, voulez-vous me faire un grand plaisir ?
Oh, mais bien grand, bien grand !»«
Volontiers, chère petite, car je suis très contente de toi.
Je voudrais, avec la pièce d'or que papa m'a donnée, acheter une belle poupée et l'avoir tout de suite.
« Eh bien, va mettre ton chapeau, je vais m'apprêter aussi, » dit sa mère.
Une demi-heure après, elles étaient au passage de l'opéra, devant un grand magasin de joujoux. Julie était pressée d'entrer, elle tenait la main dans sa poche sur son porte-monnaie, comme si elle avait peur que la pièce d'or ne se sauvât. Le marchand s'avança, son air semblait dire « Que désirez-vous ? »
Madame Popote lui demanda de montrer des poupées. Il commença par en faire voir une fort jolie, mais qui avait les cheveux et les yeux noirs.
« C'est que, maman, je la voudrais blonde, avec des yeux bleus. »«
Celle-ci vous plaît-elle, mademoiselle ?»«
Oh oui, elle est charmante. Combien coûte-t-elle ?
20 francs tout au juste. »
Julie, bien heureuse, paya elle-même, serra la poupée dans ses bras, puis devint pensive. Tout était dépensé. Comment faire pour les habits ? La pauvrette n'avait qu'une chemise. Sa mère devina ses désirs et les combla en lui disant « À présent, ma chérie, il faut nous occuper du trousseau. » Avant de rentrer à la maison, on avait acheté des bas, des bottines, de l'étoffe pour faire des robes, et plusieurs mètres de percale pour faire des chemises, pantalons, jupons, etc. Les ciseaux à la main, Madame Popote tailla tout l'après-midi. Julie, à droite pour son âge, faisait les coutures. La femme de chambre travaillait aussi pour l'importante personne qui avait été appelée Blondine.
« On sonne, allons bon !»
Quelqu'un qui va nous déranger ?
Non, maman, c'est mon oncle.
L'oncle s'informa pourquoi tant de besogne, et en apprenant que Julie avait si bien travaillé, il promit d'envoyer une commode ou une armoire à glace pour serrer tous ses objets. Le lendemain matin, un camion s'arrêtait devant la porte, chargé d'une grande caisse en bois blanc. Deux hommes eurent leur charge pour lui faire monter le perron, et de grosses gouttes de sueur ruisselaient sur leur visage lorsqu'ils la déposèrent dans le vestibule. Sur le dessus de la caisse, on lisait en grosses lettres noires « À Mademoiselle Julie Popote, rue de Boulogne, Paris. » Il y avait aussi le numéro, mais je ne m'en souviens plus.
« Oh, c'est dommage !» interrompit Lily. « J'aurais été chez cette petite fille à Paris lui demander de voir sa poupée. Mais dites, qu'est-ce qu'il y avait dans la caisse ?»
Madame de Valerie reprenant. Les hommes avaient si chaud que Madame Popote appela la cuisinière pour leur donner un verre de vin. Ils dirent « Merci, madame, vous êtes bien honnête. » Et puis le domestique vint avec un marteau et des tenailles pour enlever le couvercle. Julie, à côté, ne respirait pas. Enfin, l'ouverture est faite, on enlève du foin, beaucoup de foin, et le visage penché pour mieux voir se reflète dans une armoire à glace.
« Oh, quel bonheur ! C'est tout ce qui pouvait me plaire davantage.
Mais, mademoiselle, il y a autre chose. » Et successivement, on retira de la caisse une commode, un lit avec ses matelas, traversins et oreillers, des rideaux, et le couvre-lit en cretonne pompadour,
un mignon dessin,
une table de nuit avec tout ce qu'il fallait. Alice en souriant.
« Quoi, tout ? Dites-moi quoi, ma petite tante ? »
Madame de Valerie.
« Chut, je n'ai pas besoin de te le dire. »
La petite Alice se cacha avec une mine futée dans les bras de sa tante, qui continua à énumérer tout ce que contenait cette bienheureuse caisse. Il y avait encore 2 chaises, un fauteuil et un guéridon, le tout assez grand pour la poupée. Madame Popote était presque aussi contente que sa fille de la générosité de son frère. Elle envoya tout de suite chercher un menuisier pour faire avec des planches une chambre de poupée dans celle où couchait Julie. Tout le déballage encombrait encore le vestibule lorsqu'entra un vieux monsieur. Julie lui sauta au cou en l'appelant grand-père et lui expliqua pourquoi tant de désordre.
Oh oh, ton oncle a fait là un fameux cadeau dans une grande boîte. Mais moi, je te ferai le mien, mais dans une petite. » Le grand-père revint le jour suivant et s'amusa à exciter la curiosité de sa petite-fille. Elle rôdait tout autour de lui, cherchant à découvrir son paquet. Elle fureta aussitôt dans l'antichambre, pensant qu'il y avait peut-être été déposé, mais rien. Tout à coup, comme si ce monsieur venait seulement de se souvenir de sa promesse, il dit à Julie « Je t'ai promis quelque chose pour ta poupée. » Et fouillant l'une après l'autre toutes ses poches, il découvrit, dans le coin de son gilet, un tout petit carton. Il en sortit. Devine quoi, Lily ?
Alice : Je ne sais pas, moi, un ménage ?
Madame de Valery :
Oh, mais non !
Une petite paire de lunettes pour Blondine. On alla vite la placer sur son nez, et c'était si drôle de voir la poupée, un journal à la main, assise dans un fauteuil au milieu de sa petite chambre, terminée depuis un quart d'heure, que tout le monde en rit à se tenir les côtes. La cuisinière elle-même, attirée par tant d'exclamations, vint mettre le nez à la porte. Il n'y resta pas longtemps, car une forte odeur arrivée de la cuisine annonça que toute une casserole de lait, abandonnée sur le fourneau, devait être répandue dans le feu. Adieu la crème au chocolat. Blondine faisait depuis 8 jours la joie de Julie, qui la soignait à merveille, lorsque toute la famille Popote fit ses préparatifs pour aller à Dieppe. On lui fabriqua un joli costume de voyage, et elle prit place dans le wagon. Dans ce même wagon montèrent bientôt un monsieur, une dame et leur petit garçon, tenant un grand panier. Dès que le train fut en marche, il sortit de ce panier un petit chien terrier, noir comme du jais. Pendant tout le voyage, il allait flairer Mademoiselle Blondine, et bien des fois on dut lui dire « Azor, à bas les pattes !» Enfin, en approchant de Dieppe, c'était, je crois, à la dernière station avant d'y arriver, le monsieur et la dame réunirent tous leurs petits colis et descendirent avec le petit garçon. Le chien allait les suivre, lorsque, se retournant, il prit la poupée dans sa gueule et bondit sur la voie. Le train sifflait, un employé ferma brusquement la portière et Julie poussa un cri déchirant « Ma poupée, ma Blondine !» Monsieur et Madame Popote, qui n'avaient pas vu l'événement, ne comprenaient d'abord rien aux sanglots de la petite fille. Ils la consolèrent ensuite de leur mieux, en lui assurant que le lendemain, de bonne heure, on viendrait à sa recherche. Pendant ce temps-là, les autres voyageurs arrivaient chez eux. Une jolie petite fille accourut à leur rencontre. Elle embrassa tendrement son père, sa mère, son frère, et à ce moment-là, le chien vint bondir sur elle, la poupée toujours dans la gueule, et la déposa à ses pieds. « Oh, qu'il est gentil, Azor! Il m'a rapporté une poupée de Paris !»«
Comment ?» dit le petit garçon qui s'appelait Georges.
« Vilain chien! Voleur! C'est la poupée qui était dans le wagon qui l'a prise !» Et il lui décocha un coup de pied. « Cette poupée n'est pas à toi, Berthe. Comment faire pour la rendre ?» Tout le monde était consterné, Berthe surtout, qui avait si bien cru que c'était pour elle. On lui permit seulement d'en prendre soin pendant la nuit. Monsieur Popote arriva le lendemain, par le premier train, à la station où il avait vu la veille descendre ses compagnons de route. Il s'adressa au chef de gare, et en faisant leur portrait, lui demanda s'il connaissait ces personnes-là.
« Certainement, monsieur. Elles habitent cette jolie maison que vous voyez là-bas avec des persiennes vertes, et s'appellent monsieur et madame Colifichet. »
Monsieur Popote se dirigea vers la demeure indiquée. Georges le reconnut, et alla avertir Berthe que la poupée allait être réclamée. L'étranger fut introduit dans le salon, après avoir fait passer sa carte à M. Colifichet. Ce fut la maîtresse de la maison qui le reçut. Elle commença par mille excuses sur le procédé de son chien, puis dit le plaisir qu'elle avait à entrer en relation avec la famille Popote, dont elle avait souvent entendu parler par des amis, et demanda à aller elle-même, avec sa petite Berthe, reporter la poupée afin que les enfants fassent connaissance. M. Popote répondit le plus galamment du monde, frisa sa moustache, secoua sa chaîne de montre, et fit 2 ou 3 saluts. Madame Colifichet alla mettre son chapeau et fit servir pendant ce temps-là dans le salon des biscuits et du vin de Malaga. Julie attendait son père sur le balcon. En deux bonds, elle fut dans ses bras. On lui présenta sa nouvelle amie, mais elle n'y fit attention qu'après avoir bien embrassé Blondine et s'être assurée qu'elle n'avait pas de mal. Les deux familles se virent souvent et les deux petites filles aimaient la poupée à qui mieux mieux. Un jour, Berthe arriva à Dieppe, comptant comme de coutume bien s'amuser, mais elle trouva son amie tout en pleurs. À peine si elle eut la force de lui raconter qu'elle avait voulu faire baigner Blondine dans la mer avec le joli costume qu'on lui avait fait. Madame Popote le lui avait défendu et elle avait désobéi. À peine était-elle dans l'eau qu'un gros poisson passait près d'elle. Elle en eut si peur qu'elle poussa un cri et lâcha la poupée. Impossible de retrouver la pauvre blondine.
Alice. Oh, ma tante, c'est affreux, cela. Est-ce qu'on ne la retrouvera pas? Je ne veux pas qu'elle soit noyée, moi, vite, la fin de l'histoire.
Madame de Valery, tu l'auras bientôt, d'autant plus que je ne m'occupe guère des déballages en restant avec toi.
Alice câline. Ma petite tante, vous êtes tout à fait gentille. J'écrirai à maman que je suis bien contente de vous.
Madame de Valery, petite coquine, va. Mais où en suis-je donc?
Ah, Blondine est sous l'eau et les petites filles sanglotent. Julie promit de ne plus désobéir et elle demanda bien pardon à sa mère.
Deux jours après, il y eut un grand dîner chez les Popotes. On servit un magnifique poisson que tout le monde admira. La maîtresse de la maison, armée d'une truelle, allait le dépecer en commençant à le fendre par la moitié. Impossible d'enfoncer l'instrument.
« Comme c'est dur! C'est un animal à ventre de bois !» s'écria M. Popote.
« Il faut l'attaquer d'une autre façon. » Le conseil suivi, le poisson fut enfin séparé en deux, et tout le monde put voir, chose incroyable, Blondine dans le corps de l'animal. C'était donc celui-là même qui avait fait si grand peur à Julie. Maintenant, elle ne savait si elle devait rire ou pleurer. La poupée toute pimpante autrefois avait si piteuse mine. Madame Popote promit de la faire réparer et surtout désinfecter, ce qui était assez nécessaire, et sa fille lui en fut bien reconnaissante. Quelques jours après, on donnait un goûter d'enfant, et Blondine, plus jolie que jamais, y occupait la première place. C'était une réunion d'adieu, on allait retourner à Paris. Les deux familles, Colifichet et Popote, continuèrent à se voir souvent. Au premier de l'an, Berthe reçut une belle poupée habillée en homme. On la maria à Blondine. Les noces furent superbes et les mariés eurent de fort beaux cadeaux.
Alice. Ont-ils eu beaucoup d'enfants?
Madame de Valery. Je crois que oui, mais à présent, chérie, laisse-moi vite. Va jouer dans le jardin, on m'appelle. Madame de Valery tenait à ce que l'installation fût rapidement faite. Aussi tout l'après-midi s'en occupa-t-elle. Avant 6 heures, les caisses étaient rangées sous un hangar et chaque chose à sa place. À peine si, avec ses filles, elle eut alors le temps de faire un tour sur les planches. Elles y retrouvèrent M. de Valery et Maurice, qui étaient enchantés d'avoir vu au manège d'excellents chevaux de selle. Quant à Léon, il avait acheté une provision de grosses ficelles, un moule et une navette, afin de se faire un hamac. L'idée de s'y balancer lui donnait l'envie de rentrer le plus tôt possible pour y travailler. Il se chargea donc, avec un empressement inaccoutumé, d'aller faire une commission à la Villa des Roses, et lorsque le reste de la famille revint, bien des mailles avaient été formées par les mains du jeune garçon. Les vacances s'organisaient ainsi, selon les goûts de chacun.